Chapitre 34. Le commissaire divisionnaire Verdier, nez bosselé planté au milieu du visage comme une corne, le rhinocéros roulait à tombeau ouvert sur la 4 pratiquement déserte. Les premières lueurs du jour soulevaient la nuit dans le lointain. Des nuages poussés par un vent soutenu gobaient les derniers îlots d'étoiles. Les deux filles n'emmenaient pas large sur la banquette arrière de la 607. Après leur entrevue dans son bureau, Verdier les avait conduites dans un petit appartement proche du quai des Orfèvres qu'il tenait à la disposition de collègues ou d'amis de passage à Paris, le temps pour lui de passer quelques coups de téléphone. Il avait commandé un repas à un traiteur chinois et leur avait ordonné de ne pas bouger jusqu'à son retour. L'attente s'était prolongée jusqu'au milieu de la nuit. Les plaies semées par le bâton de bambou de tante destinée, la hyène, s'étaient rappelées au bon souvenir de Léonie. Elle les avait badigeonnées avec un antiseptique liquide déniché dans une armoire de toilette. Aurel s'était pelotonné dans un fauteuil et, négligeant les boîtes de poulet au curry et de porc au gingembre disposées sur la table basse, avait passé de longues heures sans prononcer un mot, les yeux perdus dans le vague, levant de temps à autre sur Léonie un regard interrogateur et hostile. On dirait qu'elle m'en veut. Elle se demande quel genre de relation il y a entre toi et moi. À part le fait que je renferme ton âme, il n'y a strictement rien entre nous. Pas d'accord. Je te connais mieux que n'importe qui d'autre sur cette terre. Je t'explore comme jamais personne ne t'a exploré. Possible, mais je ne l'ai pas voulu. Je te rappelle que j'étais censé expérimenter un médicament. Léonie avait tué le temps en regardant distraitement le petit écran traversé d'images kaléidoscopiques. Je ne sais pas si on peut vraiment faire confiance à Verdier. C'est pourtant toi qui m'as envoyé à lui, non ? Je pensais qu'entre titans, la solidarité, elle peut aussi se retourner contre nous. Il place les intérêts de la confrérie au-dessus de tout. Tu entrevois une autre solution pour retrouver ton corps ? Tu as l'air bien pressé de te débarrasser de moi. Pas envie d'être enceinte toute ma vie d'un bébé blanc de 21 grammes. Et je suis sûre que toi non plus, tu n'as pas envie de rester toute ta vie dans le corps d'une fille noire de 53 kilos. 55 peut-être, j'ai l'impression d'avoir grossi. Pourquoi ? Je m'y sens plutôt bien dans ton corps. Léonie avait fini par s'assoupir dans le canapé. Le rhinocéros était revenu seul au milieu de la nuit, visiblement contrarié. Il avait mangé les restes froids du repas avant de déclarer qu'il savait où était le corps de Cyriane. Aurel lui avait posé quelques questions sur la confrérie et sur la machine à transférer les âmes. Il avait répondu de manière évasive en s'efforçant de contenir son agacement. Il s'était mis en route une heure plus tard, traversant à vive allure Paris endormi. Une sourde inquiétude tenaillait Léonie. Cette course à tombeau ouvert sur l'autoroute baignée de ténèbres semblait mener tout droit dans l'abîme. Les doutes de Cyriane l'avaient contaminée. Elle n'aimait pas les regards perçants que le commissaire adressait à ses deux passagères dans le rétroviseur. Elle n'aimait pas son exaspération rentrée, ni la détermination farouche qui tendait chacun de ses gestes. Elle n'aimait pas son cuir épais et son allure de rhinocéros. Des visages émergeaient de sa mémoire profonde. Jeune, noir, même résolution, même énervement, fusil d'assaut brandi au-dessus des têtes, des tueurs juvéniles quelques secondes avant un massacre, des hommes, des femmes, des enfants alignés et mitraillés au bord d'une fosse, elle et d'autres gosses cachés dans la brousse, suffoquant de terreur. Cet homme, le rhinocéros, il ne m'inspire pas confiance, Cyriane. Pas de panique, Léonie. Reste vigilante, on s'en sortira tous les deux. J'espère. J'espère que je te reverrai un jour dans ton corps d'origine. C'est une déclaration d'amour. Idiot. Ça voudra seulement dire que les choses seront rentrées dans l'ordre. Verdier passa la première barrière de péage avant de prendre la direction de Crécy-la-Chapelle. Des traces livides sabraient la nuit et enflammaient les traînes vaporeuses des nuages. Le commissaire ne ralentit pas l'allure sur la nationale, aussi peu fréquentée que l'autoroute. Un camion croisé d'un peu trop près dans un virage hurla sa désapprobation d'un coup de klaxon intempestif. Aurel sursauta. Son visage flottait, blême, tragique, sur fond de pénombre. Plus d'hostilité ni d'arrogance dans ses yeux, mais une terreur enfantine. À la radio, un journaliste débitait les informations d'une voix monocorde. Léonie entendit qu'une guerre, une de plus, se préparait au Moyen-Orient, que certains pays, dont l'Allemagne, voulaient se retirer de l'Europe, que le sida continuait d'étendre ses ravages sur le continent africain. Elle avait eu une chance inouïe de ne pas être contaminée par les clients de tante destinée, les porcs. Ils n'avaient jamais pris la moindre précaution avec elle. Certains d'entre eux péroraient qu'on ne déboursait pas 600 euros pour baiser avec une capote. Tu es certaine de ne pas être infectée? Tu as fait un test? Elle évacua son agacement d'un soupir bruyant. Elle n'avait plus d'intimité. Son passager lisait dans ses pensées comme dans un livre ouvert. Ils m'ont fait une prise de sang au foyer d'accueil et ils n'ont rien trouvé. Ces mecs quand même, les clients de ta tante. De vrais salauds. Tu sais, ils sont malheureux dans le fond. Tu ne vas pas les plaindre en plus. Non, elle n'allait pas les plaindre, mais elle avait entrevu le désespoir dans leurs yeux, un profond dégoût d'eux-mêmes qu'ils croyaient exorcisés dans la chambre à cauchemar du pavillon de la hyène. La route défoncée traversait maintenant une forêt encore baignée de ténèbres. Des faisceaux mouvants brillaient entre les troncs et les fougères, lampes torches ou phares de voiture. Verdier ralentit et s'engagea dans une allée de terre en partie tapissée d'herbes qui donnait 2 kilomètres plus loin sur la cour d'une propriété éclairée par des lumières disséminées au sol. Les lieux étaient la proie d'une agitation intense malgré l'heure matinale. Des silhouettes armées de fusils d'assaut ou de pistolets traversèrent les faisceaux des phares tandis que deux hommes accouraient en direction de la voiture. Le commissaire coupa le moteur, ouvrit la portière conducteur et avança vers eux les bras écartés. Ils échangèrent quelques paroles que Léonie ne comprit pas. Puis, le rhinocéros, l'air sombre, ouvrit la portière arrière et ordonna aux filles de sortir. L'ambiance ramena instantanément Léonie quelques années en arrière dans son village du Libéria. Une tension presque palpable, une atmosphère de guerre. Les deux hommes les escortèrent jusqu'à l'entrée de la maison principale. Ils furent accueillis dans un immense vestibule en forme de cathédrale par une femme étrange aux vêtements noirs, cheveux tirés en arrière, tempes dégagées, un maquillage outrancier, des yeux jaunes, une chatte. Elle posa tour à tour sur les deux filles un regard d'une cruauté insondable. Léonie frissonna. Elle n'avait jamais éprouvé une telle épouvante devant les clients les plus vicieux, les plus féroces de tant de destinées.
« Que nous vaut l'honneur de votre visite, monsieur le commissaire ?»
Le rhinocéros essuya les lèvres du dos de la main avant de désigner la cour d'un ample geste du bras. « J'ai l'impression que vous ne contrôlez plus la situation dans le secteur. »
Aucune expression dans les yeux jaunes de la chatte. Un rictus retroussa légèrement sa lèvre supérieure et dévoila ses canines acérées, sans doute limées.
Pas de ma faute si on nous a envoyé des flics.
Ni de la mienne, si ceux de la crime ont fait du zèle. Je croyais que vous les teniez.
Comment ont-ils pu s'échapper?
Quelqu'un les a délivrés.
Qui?
La chatte haussa les épaules. Les lumières tamisées des appliques et du lustre estompaient les rides profondes de son front et de son cou, atténuaient la dureté de son maquillage et de ses traits.
Si je le savais.
On en est où?
On ne les a pas encore retrouvés. Le rhinocéros se lissa les cheveux à plusieurs reprises.
« Vous imaginez le bordel s'ils sortent vivants d'ici ?»«
Est-ce que tu comprends ce que je comprends, Syriane ?»«
Je te l'ai déjà dit. Les titans placent l'intérêt de la confrérie au-dessus de tout. »«
Ça veut dire que... » »«
Pas de panique, Léonie. »«
D'abord, retrouvez mon corps. Ensuite, on avisera. »«
Toi, il te laissera partir parce que tu es un titan. Mais Aurel et moi... »
Le buisson déploya ses branches épineuses dans le ventre et la poitrine de Léonie.
« Ils ne sortiront pas vivants de la forêt, » affirma la chatte d'une voix posée. « On a bouclé toutes les routes, tous les chemins.
Vous ne nous avez jamais déçus jusqu'à ce jour, mon gré à Verdier, espérant qu'il n'y a pas un début à tout. »
« Encore une fois, on nous avait promis la neutralité de la police. Rien n'est jamais garanti à 100%.
L'entropie, le chaos se glissent dans tous les systèmes. » Si votre type n'avait pas pété les plombs sur l'île aux loups, jamais les fouineurs de la crime n'auraient trouvé les cadavres dans la Marne. La clé de la réussite, c'est la capacité d'adaptation.
La chatte hocha la tête avant de poser de nouveau ses yeux jaunes sur Aurel et Léonie.
À propos d'entropie, pourquoi les avez-vous emmenés ces deux-là?
Conduisez-moi à l'endroit où est entreposé le translateur.
Minute, je n'ai pas accès à cette salle, on ne m'a pas donné les codes.
On m'a seulement demandé de mettre cette demeure à disposition pour les visites des éventuels acheteurs. Ils ont installé un blindage et un système de sécurité plus performants que ceux de la Banque de France. Je m'en servirai ensuite pour... Enfin, pour ce que vous savez maintenant que je ne peux plus utiliser le pavillon de nos gens.
Qui peut m'y conduire?
Le responsable de la sécurité. Mais vous devrez patienter, il est parti avec les autres à la chasse aux poulets.
Le rhinocéros desserra rageusement le nœud de sa cravate.
On peut se faire servir un petit déjeuner en attendant?
Du bras, la chatte leur indiqua la direction de la cuisine.
« Mange, Léonie.
Je n'ai pas faim.
Ton corps doit reprendre des forces. Souviens-toi qu'il est en charge de deux âmes.
À quoi bon?
Jamais on ne pourra partir d'ici. Hé, Léonie, tu t'es sortie indemne deux fois des griffes de la hyène et du paon. Tu as échappé aux trois coqs dans le troquet, au lamantin dans son appartement, à l'assassin d'Anselme. Tu ne vas pas avoir peur d'un rhinocéros et d'une poignée de coyotes. Qu'est-ce que tu fais de nous? De nous?
Maintenant que je te connais de l'intérieur, j'ai envie de te connaître de l'extérieur.
Tu m'oublieras quand tu auras retrouvé ton corps, Cyriane. Quand tu auras retrouvé ta vie, tu m'oublieras parce qu'on ne peut pas échapper à sa malédiction.
C'est peut-être toi, ma malédiction.
Non, je corrige, c'est sûrement toi. Toi qui désormais me possède.
Léonie prit un morceau de pain dans la corbeille, le beurra et s'efforça de le manger malgré un ventre noué et un début de nausée.
Assise en face, Aurel gardait les yeux plongés dans sa tasse de thé d'où montaient des dentelles de fumée blanche. Elle ne semblait pas avoir pris conscience de la situation, ou plutôt de la même façon que Léonie se retirait loin en elle-même pour supporter les brutalités des clients de temps destiné, Aurel s'était réfugiée dans un recoin secret où ses propres pensées n'avaient aucune chance de l'atteindre.
Une autruche, la tête dans le sable.
Faut la comprendre, Léonie. Elle n'a jamais été placée face à ce genre de danger.
Toi non plus, non?
Si, dans mon premier corps d'emprunt. J'ai cru un moment que je ne reviendrais pas.
C'était seulement un jeu pour toi, comme une descente de torrent ou un safari en Afrique.
Tu es mon premier safari africain, je t'assure.
Un petit rire éclata sur les lèvres de Léonie. Une bulle de gaieté qui provoqua l'étonnement de Verdier, de la chatte et des trois hommes vêtus de cuir et de jeans postés à l'entrée de la pièce. Dans la cuisine à l'ancienne, entièrement blanche, carrelage, placard, ferme et poutre compris, le bleu roi et les motifs dorés de la faïence surplombant l'évier et le plan de travail jetaient les seules taches de couleur. La table en bois massif, habillée d'une nappe écrue, pouvait accueillir plus de 20 convives. Le téléphone portable de la chatte émit un signal reproduisant le gémissement d'un blessé. Elle écouta son correspondant sans dire un mot avant de couper la communication et de reposer l'appareil sur la table.
« Ils les ont trouvés ?» demanda Verdier.
« Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder, ils les ont localisés. »
Le rhinocéros vida sa 6e ou 7e tasse de café, demanda une cigarette à Calixte, qui lui tendit son paquet d'assez mauvaise grâce, en alluma une. La chatte revint à l'assaut après avoir contemplé les deux filles d'un air gourmand.
« Pourquoi les avez-vous emmenées ici ?»
Le rhinocéros ne répondit pas, retranché dans le nuage de fumée qui lui enveloppait la tête.
« Vous pouvez peut-être au moins me dire ce que vous comptez faire d'elles ?»
Verdier s'essuya les lèvres du dos de la main, une manie.
Vous vous en occuperez une fois que nous n'aurons plus besoin d'elle.
Avec un très grand plaisir. Personne ne les réclamera.
L'index du rhinocéros se pointa sur Léonie.
Elle, non. Pour l'autre, je brouillerai les pistes.
Tu entends, Cyriane? Il veut nous livrer à cette femme. Elle est pire que tant de destinée, elle ressemble à la mort.
Ne te laisse pas déborder par la peur, Léonie. Plus tu garderas la tête froide, plus nos chances augmenteront de rester en vie.
Elle me fout la trouille, on dirait qu'elle ne vit que de souffrance.
Ils ont besoin de toi jusqu'à ce que je sois revenu dans mon corps, Léonie. Une fois que le transfert sera effectué, débrouille-toi pour gagner du temps et rester près de moi jusqu'à ce que je reprenne conscience. Débrouille-toi aussi pour récupérer une arme, n'importe laquelle. Un flingue serait idéal. À défaut, le couteau que tu tiens, il a l'air bien affûté.
Léonie prit un autre morceau de pain dans la corbeille, étala du beurre dessus. Essuya la lame avec sa serviette en papier, la replia et profita d'un moment où personne ne s'intéressait à elle pour glisser le couteau dans la poche de son blouson, puis elle avala son morceau de pain en s'appliquant à bien le mâcher.
Bien, nous voilà armés maintenant.
Armés? Tu parles? Un couteau contre des dizaines d'armes à feu?
Je te propose une version optimiste. C'est quand même mieux que les ongles et les dents.
Au fait, Léonie, tu ne m'as pas encore dit à quel animal tu m'associes.
Aucune idée, je ne t'ai jamais vu.
Si, en photo.
Les photos ne suffisent pas, il faut que je te voie bouger, parler.
Un brouhaha précéda de quelques secondes l'irruption de deux hommes dans la cuisine. Une armoire à glace au crâne rasé, vêtue d'un treillis militaire et armée d'un fusil d'assaut, un petit homme brun et sec, en costume noir, yeux ronds et vifs de merle. La chatte se leva et se dirigea vers les nouveaux arrivants pour faire les présentations.
Anton Zvaros, le responsable de la sécurité, Sergueï, son garde du corps, le commissaire divisionnaire Verdier et ses deux jeunes protégés.
Le petit homme brun, le merle, fixa le rhinocéros avec froideur.
Décidément, on voit beaucoup de flics dans le coin.
Il parlait avec un léger accent slave.
Beaucoup de monde, en général. Cet endroit a pourtant été choisi pour sa tranquillité.
Verdier se leva à son tour après s'être énergiquement frotté les lèvres avec une serviette en papier. « Je ne suis pas ici en tant que flic, mais en tant que représentant de la confrérie des Titans. »
Le ton autoritaire du commissaire n'impressionna pas Anton Zvaros.
« On ne m'a pas annoncé votre visite ?»«
Il n'est que... » Le rhinocéros consulta sa montre. « 6h22. Dans 2 heures ou plus tard, vous devriez recevoir un coup de fil de confirmation de votre supérieur direct. »
Le merle s'inclina, avec un sourire qui révéla ses petites dents grises et pointues.
« Ce n'est pas un endroit où emmener des jeunes filles. »
« On y est pourtant en sécurité, non ?
Que voulez-vous de moi ?
Que vous me conduisiez dans la salle où vous avez entreposé le translateur. »
Le rhinocéros écrasa sa cigarette dans un cendrier. L'un des caissons devrait contenir le corps d'un jeune homme blond.
Anton Zvaros échangea un bref regard avec Calixte.
« Possible.
Oui ou non ?
Oui, aux dernières nouvelles.
Allons vérifier, voulez-vous ?
Je n'ai pas le droit d'introduire quiconque dans la salle sans l'autorisation de mon supérieur direct. Vous le savez si vous êtes un titan. Ce sont vos propres règles. »
La contrariété plissa les yeux et le front de Verdier. Toute perte de temps pourrait être préjudiciable au corps allongé dans ce caisson.
« Entre deux risques, monsieur, je dois choisir le moindre. »
Le rhinocéros n'insista pas. Les règles de la confrérie sont très strictes. Il ne peut forcer quelqu'un de l'organisation à les transgresser.
« Je te sens impatient de retrouver son corps, Syriane.
Impatient d'agir, Léonie. Impatient de te tirer de ce guépier.
Et Aurel ?
Si on s'en sort, si elle suit le mouvement, elle s'en sortira elle aussi.
Tu ne l'aimes donc plus ?
Non.
Et figure-toi que je suis tombé amoureux d'une autre. Je te dirai qui, quand je pourrai te parler les yeux dans les yeux. »